La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent « Nouveau regard sur notre histoire », une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec « Notre histoire et nos racines » sur les ondes de Radio VM. Au microphone, Éric Lebel. Ce soir, nous vous proposons, en levée de rideau, une entrevue de Robert Comeau avec Robert Gagnon et Denis Goulet, auteurs de l'ouvrage « Histoire de la médecine au Québec ». Et en seconde partie de l'émission, nous nous rendons en France, plus précisément à Brouage, ville natale de Samuel de Champlain. Et bonne nouvelle pour vous tous, amateurs d'histoire, l'édition 2014 de la revue de la Société historique de Montréal, Montréal en tête, est maintenant disponible dans toutes les bonnes librairies. Bonne émission! À l'occasion de la parution de l'ouvrage « Histoire de la médecine au Québec 1800-2000 » chez Septentrion, Robert Comeau s'entretient avec les deux auteurs de ce livre. Robert Gagnon, professeur en histoire de l'éducation des sciences et techniques à l'Université du Québec à Montréal, et Denis Goulet, professeur associé au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, spécialiste en histoire de la médecine. Il sera question, dans son premier entretien, de l'histoire de la médecine au Québec au 19e siècle.
Alors, peut-être que ma première question, ce serait de caractériser votre angle d'approche. Vous êtes deux spécialistes dans deux domaines assez différents. Monsieur Goulet, vous avez travaillé depuis plusieurs années en histoire de la médecine, je dirais même en sociologie de la santé.
Oui.
Je me souviens de vous avoir rencontré en 92, lorsque vous avez publié avec André Paradis une première chronologie des institutions et des pratiques médicales de la Nouvelle-France en 1939. Et depuis ce temps-là, vous n'avez pas cessé d'écrire, je pense, plus de 15 volumes en histoire de la santé. Et vous avez publié de nombreux articles sur différentes spécialités, que ce soit la neurologie, la dermatologie, enfin, je ne les nommerai pas tous. Vous avez publié l'histoire de facultés de médecine, l'histoire d'hôpitaux, comme Notre-Dame ou Maisonneuve-Rosemont, et même une histoire du Collège des médecins. Alors là, au fond, c'est un ouvrage de synthèse. Alors, voulez-vous nous parler un peu de l'angle d'approche de cette nouvelle synthèse?
En fait, c'est un peu une réunion de deux éléments, si on veut, de ma carrière. D'une part, une carrière consacrée à reconstituer, en quelque sorte, une histoire interne de la médecine, c'est-à-dire une histoire des savoirs, une histoire des pratiques, mais qui se conjugue aussi avec le fait que j'ai enseigné, ou j'enseigne encore la sociologie de la santé. Et dans cette perspective-là, bien, cet ouvrage-là se voulait, en quelque sorte, défini par une approche socio-historique, d'une part, et d'autre part, par des interrogations, mais qui concernent la situation de la médecine aujourd'hui. Par exemple, on s'est posé la question, moi et Robert, dans le fond, est-ce normal que les institutions hospitalières soient aussi importantes dans le système de santé? Est-ce normal de naître et mourir à l'hôpital, etc.? C'est donc une approche à la fois, une approche, moi j'ai privilégié de mon côté, c'est ma spécialité, une approche interne de la médecine, alors que Robert davantage fait une approche sociologique. Et on a conjugué les deux et ça donne une socio-histoire, si on veut, de la santé et de la médecine.
Mais dans l'historiographie, pourrait-on dire, on a beaucoup parlé de l'histoire de la santé. Et même aussi, il y a eu des médecins qui se sont intéressés à l'histoire de la médecine, qui sont focusés beaucoup aussi sur les pionniers, donc sur les individus. Nous, notre angle d'approche, c'était vraiment de se dire une histoire de la médecine, pas une histoire de la santé, pas une histoire des médecins non plus, mais vraiment le développement du savoir médical. D'ailleurs, notre ouvrage se divise en deux parties, le 19e et le 20e siècle. C'est l'art de soigner, parce que ce développement du savoir médical, il est en plein balbutiement, on pourrait dire, au 19e siècle, et on guérit pas beaucoup, tandis que on soigne beaucoup plus. On commence à connaître les maladies, on diagnostique de mieux en mieux. Mais même à la fin du 19e siècle, un grand ouvrage, celui de Hosler, par exemple, quelqu'un qui est un peu au courant du développement médical, voit bien qu'à travers les écrits de Hosler, on est capable de bien diagnostiquer, mais que la médecine est encore loin de bien guérir les maladies qu'on connaît de mieux en mieux. Et donc, il y a des époques charnières, là. Donc, c'est le développement des premiers laboratoires. À la fin du 19e siècle, une science qui est la bactériologie, qui va impulser beaucoup pour la guérison, etc. Donc, c'est ces grands développements-là. Mais au début du 20e siècle, on peut là voir qu'on commence à avoir une science qui va guérir.
Mais au cœur de ce projet-là, il y a une chose importante, c'est, en fait, on s'est attardé à mesurer le processus de médicalisation de la société québécoise. Il faut se rappeler que c'est une société qui est assez peu médicalisée au 19e et même au début, jusque dans les années 1930. Et même l'accouchement s'est médicalisé assez tard au Québec. Donc, il y a eu un processus de médicalisation. Et vers la fin du livre, on y reviendra, mais il y a aussi un processus de surmédicalisation de nos sociétés. Le Québec en fait partie, de nos sociétés industrialisées. Donc, au cœur de ce livre-là, je pense qu'il y a ces deux processus-là qui sont intégrés, là,
donc,
qui sont importants.
Votre ouvrage porte sur deux siècles, mais là, on va commencer. Aujourd'hui, on va aborder le 19e siècle, cette première partie. Vous y avez donné comme titre une pratique et une profession incertaine. Mm-hmm. Et est-ce qu'on peut dire que l'art de soigner, c'est ça qui est le plus important au 19e, enfin du début là, du 19e, et on va tranquillement s'acheminer vers... La science de guérir, c'est le sous-titre de votre ouvrage, d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Donc, comment on caractériserait d'abord, au moins, les premiers deux tiers du 19e siècle?
On peut le caractériser par un processus, je dirais, qui touche à peu près toutes les sociétés occidentales. C'est cette transition entre une médecine des humeurs, une médecine un peu empirique, vers une médecine un petit peu plus basée sur l'observation, ce qu'on appelle la révolution clinique. Ça, c'est un élément important. Cette révolution clinique qui s'amorce en France, en Europe en général, aux États-Unis, et qui touche le Québec, se fait quand même un peu plus tardivement ici en territoire québécois. Mais ça implique quoi? Ça implique un développement assez important de la connaissance, en quelque sorte, des symptômes d'une maladie. On a une meilleure connaissance des symptômes. Alors, on observe davantage les signes cliniques. Et ça, ça fait partie de la révolution clinique. Et aussi, ben, on va procéder à une meilleure classification des maladies. Donc, le processus au 19e siècle pour les médecins au niveau de leur formation, c'est de faire en sorte qu'ils puissent reconnaître une maladie spécifique, la diagnostiquer. Mais le problème se pose lorsque vient le temps de la soigner, de la guérir, parce que les moyens thérapeutiques sont assez réduits. On peut dire que les médecins se distinguent guère de toute une panoplie de commerçants de la santé ou des commerçants de la maladie. Dans le fond, ils utilisent à peu près les mêmes produits que vendent les marchands de remèdes brevetés, en gros. Des remèdes miracles, mais aussi des produits assez récurrents qu'on retrouve dans la trousse d'un médecin. On utilise beaucoup l'alcool, on utilise l'opium, on utilise des sédatifs, on utilise le cannabis, on utilise le hashish.
Le vin.
Mmh. Donc, ce sont tous des produits soit qui soulagent le patient, ou soit le stimule. Donc, il y a toute une panoplie de stimulants.
On va revenir à cet aspect-là. Mais on peut dire que globalement, dans la première moitié du 19e, vous signalez que les médecins francophones sont aux prises avec le monopole de la faculté de médecine de McGill. Mm-hmm. Ils sont évidemment confrontés aux religieuses hospitalières et aux querelles de clochers entre Québec et Montréal. Il y a aussi l'opposition des élites politiques qui sont réfractaires là, à certains acquis de la Révolution, comme par exemple la vaccination. Mm-hmm. Alors, est-ce que ces trois axes-là, c'est vraiment ce qui structure la première moitié du 19e?
Il y a un processus qui est important que l'on développe pour ce 19e siècle-là, puis qui va expliquer beaucoup les différentes questions que tu viens de soulever, Robert. C'est le processus d'institutionnalisation. Au 19e siècle, on crée des institutions qui vont être très importantes pour le développement de cette médecine dont on vient de parler, qui se développe. Et on n'a qu'à penser, par exemple, au développement des hôpitaux. Mais les hôpitaux où le savoir va se développer, où les médecins vont intervenir, ce sera un passage obligé dans la formation même des médecins. Et là, je viens de parler de formation des médecins. Début de cette institutionnalisation de la formation médicale. Il ne faut pas oublier qu'en 1800, là, pour devenir médecin, on n'a qu'à passer une cléricature ou des exceptions qui vont aller faire un voyage en Europe et surtout aux États-Unis au début du 19e siècle. plus on avancera dans ce 19e siècle-là, plus ces médecins-là vont choisir l'Europe plutôt que l'Amérique pour se former. Donc, formation institutionnelle, dans quoi? Dans des écoles de médecine et de chirurgie, ensuite dans des facultés, lorsque les premières universités vont être créées. Il y en a juste deux, on pourrait dire deux et demi, parce qu'il va y avoir une succursale de l'Université Laval à Montréal qui va arriver dans les années 1870. Et troisième élément de ce processus d'institutionnalisation, c'est la constitution d'un collège des médecins, donc d'un regroupement social qui va avoir un droit légal.
Ça, c'est très important, le collège des médecins, parce que,
en fait... En 1847.
C'est 1847, et c'est assez formidable, parce que c'est probablement un des premiers ordres professionnels en médecine dans le monde. Il y a peu d'équivalents. Et dès 1847, qu'est-ce qu'obtiennent les médecins? Ils obtiennent l'autocontrôle de la profession, ce qui nous touche encore aujourd'hui. C'est le collège des médecins qui décide qui étudie la médecine, et c'est le collège des médecins qui décide qui pratique la médecine. Donc, on a un pouvoir décisionnel en amont et en aval. Il y a donc, dès 1847, il y a un processus, comme le dit Robert, là, d'institutionnalisation, mais je dirais de professionnalisation de la médecine. Ça devient peu à peu une profession. Ce processus de professionnalisation va s'étendre tout au long du 19e siècle pour ensuite bifurquer vers un autre processus qui est plus négatif, c'est le processus de monopolisation des soins. On va le voir au 20e siècle. Mais le Collège des médecins est certes une institution qui rejoint un rôle très important.
Vous en parlez longuement, on va y revenir. Mais vous avez dit tantôt que le 19e siècle marquait la naissance de la médecine clinique. Et vous parlez longuement dans votre ouvrage de la fameuse doctrine des humeurs, doctrine qui existait depuis des siècles. C'est quoi exactement ce changement-là de paradigme, si on peut dire?
Ben en fait, le changement, c'est...
De la doctrine des humeurs à...
La doctrine des humeurs a finalement une approche organiciste, on dit une approche clinique, qui est basée sur l'observation des organes. C'est qu'avant, on concevait la maladie, c'était très simple, dans le fond. La maladie, c'était le dérèglement des humeurs, c'est-à-dire c'était un excès d'humeur, ou bien c'était une absence, ou une diminution de certaines humeurs. Par exemple, au niveau d'une des humeurs, c'est le sang, on avait aussi le phlegme, etc.
La bile,
notamment. Et donc, c'était une approche qui était liée à des fluides, soi-disant des fluides corporels qui se promenaient dans le corps humain. En fait, la transition, c'est des humeurs aux organes, fait en sorte qu'on a une approche qui est beaucoup plus axée sur l'observation des organes, donc par la dissection anatomique. Et on commence à observer les tissus qui enveloppent les organes, donc c'est là que va apparaître l'histologie, etc. Il y a donc une transition qui est assez importante parce que auparavant on avait une approche qualitative. Durant la médecine des humeurs, on ne comptait pas le pouls, on le qualifiait. Donc c'est une médecine qualitative, on disait qu'il était galopant, frétillant, etc. Avec la médecine clinique, on en arrive à mesurer, on veut, la pression sanguine, éventuellement, à mesurer, à faire de plus en plus des tests de laboratoire, etc. Mais précédemment, il y avait quand même une analyse qui était assez sommaire, une analyse des urines, par exemple, dans l'urinal, durant la théorie des humeurs, où il y a même des médecins qui faisaient goûter l'urine à leur assistant pour déceler éventuellement le diabète, donc le diabète sucré. Mais cette transition-là est importante, je dirais, des humeurs aux organes, mais je soulignerais aussi que cette transition-là se fait assez tardivement au Québec. Il n'y a pas un renversement complet. Des médecins vont à la fois tenir compte, et ça fait partie de la médecine des humeurs, du tempérament du patient. Vous savez, c'est un patient, à l'époque, si un patient était sanguin, bien, on lui prescrivait davantage de saigner parce qu'on présumait qu'il y avait un excès de sang. Hein. Si un patient était bilieux, donc porté à l'inquiétude, bien, on lui prescrivait davantage de vomitif pour extraire la bile, l'excès de bile. Et cette approche-là va demeurer dans la pratique jusqu'au moins dans les années 1870, où, par exemple, un médecin se rend chez une malade, il va compter son pouls, donc on est dans la médecine clinique, il va prendre sa température, il va mesurer sa température, on est dans le moderne, mais en même temps, va observer son tempérament, va lui prescrire des saignées, etc. Donc, une espèce de réunion, de l'ancien et du moderne, qui va s'opérer, au moins jusque dans les années 1870.
Et les médecins, il y a une compétition avec les charlatans en même temps, au début du 19e siècle. Ils ne sont pas seuls sur le terrain.
Il y a un marché, je dirais, ouvert, contrairement à aujourd'hui. Et effectivement, compte tenu justement de ce savoir un peu naissant, ce que Denis disait aussi du côtoiement entre une médecine ancestrale qui date des Grecs, et d'un nouveau savoir qui apparaît, les médecins n'ont pas nécessairement le gros bout du bâton par rapport aux résultats sur la guérison d'un patient. Et ça permet effectivement un marché où les médecins n'ont pas, je dirais, la force qu'ils détiennent aujourd'hui.
ils n'ont pas la, non plus la reconnaissance professionnelle. Il faut savoir qu'au 19e siècle, et même assez tard au 20e siècle, on a recours au médecin qu'en dernier... C'est-à-dire, on utilise... En fait, on va voir le médecin plutôt qu'en dernier recours. Et ça, les médecins s'en plaignent.
Donc, souvent, il y avait beaucoup de médecine à la maison, quoi.
Oui, oui, c'était l'automédication. Tout à fait. L'automédication dominait. Il y avait des recettes qui étaient léguées de famille en famille. Toutes les cultures, le Québec compris, ont élaboré un savoir traditionnel, un savoir populaire.
Mais est-ce que les médecins intervenaient déjà dans les, lors des grandes épidémies comme celle du choléra en 1832, le typhus, etc.? Comment intervenaient les médecins au 19e face à ces grandes épidémies?
Bon, d'abord, quand ces épidémies arrivent là, il y a quelque chose qui arrive de particulier, c'est que les autorités, par exemple, quand ça se passe à Montréal, les autorités à Montréal ouvrent des bureaux de santé. Et les médecins vont jouer un rôle, je dirais, de conseiller. Hein. À l'époque, d'ailleurs, il y a deux grandes tactiques là, qui vont être soit à la quarantaine ou soit essayer, effectivement, de dire qu'il y a de la contagion, etc. Donc, il y a des grandes théories. On n'est pas encore dans un seul paradigme là, qui va être celui de la fin du 19e siècle où on va bien isoler.
On n'a pas encore identifié les bactéries.
Oui, c'est ça.
Ça va venir fin 19e.
Tout à fait. En fait, on n'a pas trouvé des causes spécifiques des maladies. Souvent, on confond une maladie avec une autre. Et aussi, le fait que les médecins sont désemparés, ils peuvent guérir parce que puisqu'on ne connaît pas la cause de la maladie, ni le vecteur non plus. On ne sait pas si c'est l'air, on ne sait pas trop si c'est l'eau.
La cause des infections.
Ouais, la cause des infections, oui.
On parle de miasmes qui existent.
Ce sont des hypothèses, ouais. Mais on connaît pas. Il n'y a pas de mesure comme aujourd'hui. On sait, par exemple, que telle bactérie est véhiculée par l'eau, par exemple, ou véhiculée par l'air. À cette époque, on l'ignore. Et donc, les mesures sont plutôt controversées, empiriques. On y va par SRA, mais ils n'ont plus de moyens pour intervenir. Ce qui explique ces grandes épidémies de choléra. En 32,
ça dure jusqu'à 34. Quand, les épidémies? Ça dure jusqu'à la fin du
Le choléra, c'est jusqu'à environ dans les années 1870. Ça disparaît peu à peu. Les moyens de prévention se sont améliorés. Le typhus, la plus grande épidémie, c'est celle de 1847, qui va toucher particulièrement les immigrants irlandais. Il va y avoir des épidémies de variole.
Oui. La dernière, en 1885, qui va amener des émeutes à Montréal. Et
après la Première Guerre mondiale aussi, je pense.
Oui, il y a la grippe espagnole, bien sûr, qui va frapper en 1919. Mais ce qui est intéressant, par exemple, quand on parle de cette grande épidémie, une des dernières grandes épidémies de variole, ou petite vérole, hein, c'est la même maladie, c'est qu'à l'intérieur même du corps médical, il y a des dissidences. Il y a des gens qui sont pro-vaccins et d'autres qui sont anti-vaccins. On a tendance à penser là, que c'était les ignorants canadiens-français versus le groupe des médecins ou de la société canadienne-anglaise, mais c'est pas ça du tout. Il y a, au sein même de la profession médicale, des points de vue...
Controversés.
Ben, j'irais même opposés.
Ah oui. Oui. Vous abordez dans votre ouvrage la contribution de la médecine amérindienne. C'est, j'imagine, là, c'est l'usage des plantes, les extraits d'animaux sauvages.
Oui, oui.
C'est quoi,
oui.
Par exemple, des exemples de ça, vous en avez?
Bien, par exemple, on l'utilisait, la graisse d'oie. On sait qu'il y a un leg amérindien au niveau, par exemple, des propriétés de substances animales. La graisse d'oie, par exemple, est utilisée, notamment dans le bas du fleuve. On se frictionnait le cou lorsqu'on avait la grippe ou le rhume. C'était jugé relativement efficace. On utilisait aussi l'huile de castor qui pouvait être efficace sur certains
problèmes digestifs.
Probablement qu'il y a eu un leg. On n'a pas de source précise qui permette de mesurer, mais quand on regarde les travaux des anthropologues par rapport à la pharmacopée amérindienne, et ici on observe, et on l'a fait, mon Pierre Robert, le traité de matière médicale des Sœurs de la Providence, qui est un immense traité qui servait à fabriquer les remèdes dans les grands hôpitaux du Québec, eh bien, on retrouve à peu près les mêmes produits. À mon avis, et Robert le partage, il y a eu un leg amérindien au niveau... Par exemple, l'utilisation de l'écorce de bouleau pour panser des plaies, l'utilisation de la gomme de sapin, la gomme d'épinette, qui est un antiseptique reconnu aujourd'hui, qu'on utilisait pour la cicatrice. Les Amérindiens utilisaient ces produits-là. Certainement qu'ils ont légué ça aux chasseurs. Il y a eu un savoir... Malheureusement, ce savoir traditionnel amérindien a été camouflé par le fait que les médecins étaient assez opposés, quoiqu'ils utilisaient les mêmes produits que les Amérindiens, mais ils avaient une perception très négative des Amérindiens.
on pourrait s'étendre sur les Amérindiens, mais comme il y a beaucoup de sujets dans votre livre, il y a tout l'aspect médecine populaire. Vous dites que les gens, il y avait peu de médecins. Plus on y va, plus le nombre de médecins pour la population augmente. Donc, est-ce qu'il y avait une résistance à l'hospitalisation? Est-ce que c'était parce que les gens voulaient pas aller à l'hôpital ou si parce qu'il y en avait pas assez?
Il y avait un adage populaire qui est assez répandu autant en France qu'ici au Québec, c'est on disait on entre à l'hôpital que pour y mourir. Il y avait certainement qu'il y avait une crainte de l'hôpital. D'ailleurs, on allait à l'hôpital qu'en dernier recours. Les soins se font à la maison, ils se font pas à l'hôpital. Hein. C'est vraiment un dernier recours et souvent on allait à l'hôpital non pas nécessairement pour y mourir, mais c'était vraiment dernière étape.
D'abord, il faut dire une chose aussi, c'est que les hôpitaux sont en milieu urbain. Pour le 19e siècle, on est dans une société rurale. Donc déjà, en partant, là, l'accès à l'hôpital est réservé aux urbains. Donc déjà, on n'a pas le réseau d'hôpitaux qu'on va avoir un peu plus tard.
On allait aussi chez les concurrents des médecins.
On n'a pas l'assurance maladie non plus. Entrer à l'hôpital, c'est pas donné à tout le monde, même si on va avoir assez rapidement en raison du fait que ces hôpitaux-là chez les catholiques sont dans les mains des communautés religieuses hospitalières, en raison que dans les milieux anglophones, ben, c'est tous les organismes de charité aussi qui sont fort présents. On a quand même un accès gratuit pour une infime partie les plus pauvres, mais qui demandent une contrepartie souvent assez désagréable. Ces gens-là doivent pratiquement être des cobayes et sont dans des salles communes où c'est pas tout à fait alléchant que de se retrouver dans ce milieu-là pour cette catégorie sociale-là.
Oui, une chose importante qu'il faut souligner, c'est le processus de médicalisation, ça peut surprendre, mais le processus de médicalisation des hôpitaux se fait très tardivement. À l'Hôtel-Dieu de Montréal, qui était quand même un grand hôpital, le médecin, en 1872-1875, fait la tournée des salles une fois par semaine. Il y a un médecin titré. Il faut pas imaginer...
C'est un lieu de soins.
C'est un lieu de soins quotidiens. C'est plus le care, hein, c'est l'expression anglophone, c'est davantage le care qui prédomine que le cure. Il va y avoir une médicalisation de l'hôpital qui va s'opérer à partir de 1870-80, où de plus en plus, les médecins vont pénétrer à l'intérieur de l'hôpital, vont en faire un lieu d'observation, un lieu d'enseignement, un lieu où va apparaître la chirurgie. Mais ce processus de médicalisation-là se fait tardivement. Autre point, par rapport à la perception de l'hôpital, lorsque l'hôpital Notre-Dame ouvre un département de pédiatrie au début du 20e siècle, eh bien, on est obligé de passer des annonces dans les journaux ou dans les revues parce qu'il n'y a personne qui se présente. Parce qu'on n'imagine pas, à cette époque-là, de référer un enfant dans un hôpital pour adultes. Il y a une résistance.
On accouche à la maison.
On accouche à la maison et on meurt à la maison.
Tantôt, vous avez souligné que 1847 est une date importante. C'est la création du Collège des médecins et chirurgiens du Bas-Canada. En quoi cette loi-là, qui a été qualifiée de grande charte, joue un rôle important dans, je dirais, tout le système hospitalo-universitaire qui existe encore aujourd'hui? C'est là que ça commence? Ça définit quoi exactement le Collège des médecins?
C'est dit qu'elle joue un rôle majeur parce que dès le départ, d'après la loi médicale de 1947, il doit y avoir un espace qui est réservé à la formation clinique à l'intérieur d'un hôpital. Donc, c'est le premier mouvement vers une médicalisation de l'hôpital. Ça, c'est important. Deuxième aspect, c'est que le Collège des médecins exige un certain degré de formation théorique et pratique, ce qui n'existait pas auparavant. Il y a donc un premier processus d'uniformisation de la formation des médecins.
Et sur le nombre des médecins aussi, ça va régir aussi, limiter le nombre de médecins.
Oui, bien, c'est-à-dire, comme je le soulignais tantôt, en fait, le Collège des médecins a le pouvoir, si on veut, d'assurer une régularisation des effectifs médicaux. Tout à fait. C'est le Collège qui décide qui étudie et qui, en définitive, peut pratiquer. Donc, en contingentant l'admission à la médecine, évidemment, on contrôle, si on veut.
Pendant tout le 19e siècle, et même à partir de 1820, je l'ai remarqué, il y a un discours sur l'encombrement des professions libérales et donc de la médecine. Et ce discours-là, grosso modo, il est généré non pas par la population, mais par les professions libérales eux-mêmes, et donc par les médecins qui disent « il y a trop de médecins ». Autrement dit, ce qu'on dit, il y a trop de médecins, mais il y a des bons et des mauvais médecins, et il faut donc restreindre ces mauvais médecins. C'est qui ces mauvais médecins-là? Ben, c'est des gens qui, à partir de 1947, n'auront pas passé par une institution reconnue, des gens donc qui n'auront pas passé non plus par le collège classique. On va mettre beaucoup d'insistance sur le fait que pour un médecin, on doit connaître le latin, on doit avoir fait de la philosophie, etc., pour uniformiser non seulement la formation, je dirais, technique du médecin, mais lui donner aussi une valeur sociale. Le médecin, c'est un honnête homme, c'est quelqu'un qui sort des collèges classiques et qui se distingue de la majorité de la population par ce capital culturel que la majorité n'a pas et qui est décerné, entre autres, par le collège classique et plus tard par les facultés de médecine. Donc, c'est pas juste une formation qui est liée à une formation technico-médicale, mais également une formation sociale pour que ce médecin apparaisse comme étant de la classe supérieure. Donc, c'est important, ça aussi.
Oui, vous dites qu'il y a fait trois écoles de médecine universitaire là, qui étaient les plus importantes.
Oui, Laval qui est créée en 1952 aussi.
Montréal puis McGill. Mais à côté de ça, vous écrivez qu'il y a d'autres lieux de formation médicale.
Il y a eu des petites écoles qui ont émergé, mais qui n'ont pas résisté à la concurrence de McGill ou de l'École de médecine de chirurgie. Il y a eu une petite école de médecine des Berthiers, mais elle disparaît quelques mois.
C'est très marginal.
En fait, c'est très intéressant parce que le système québécois, dès le départ, dès le 19e siècle, mise sur une formation universitaire. Et c'est pas le cas partout. On a qu'à penser à nos voisins américains où il y a une panoplie de petites écoles privées créées par des médecins, comme ça, spontanément, c'est assez lucratif, sans trop de contrôle au niveau du cursus, où on va constater au début du 20e siècle qu'il y a une inégalité terrible entre les écoles de médecine aux États-Unis. C'est un problème qu'on n'aura pas au Québec et au Canada.
Il va même avoir aux États-Unis, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, des écoles qui s'adressent dans la deuxième moitié du 19e siècle aux femmes. Et donc, ça permet quand même cette multitude de petites écoles dans le modèle américain qu'apparaissent ce genre d'écoles tout à fait particulières qui vont finalement faire progresser, en tout cas, l'émancipation des femmes.
Vous décrivez longuement la pratique de la dissection qui s'est développée après 1850. D'ailleurs, c'est des pages fort intéressantes. Vous avez beaucoup d'illustrations. C'est assez... assez particulier. Vous évoquez même un trafic de cadavres, de vol de cadavres. Mm-hmm. C'était important dans cette phase-là du 19e siècle?
C'était essentiel parce que la base de la médecine clinique, c'est l'étude anatomique, c'est la connaissance de l'anatomie humaine, c'est la connaissance des organes humains, etc. Dans la formation d'un médecin, surtout, c'est des jeunes médecins qui voulaient s'orienter vers la chirurgie. La connaissance anatomique était essentielle. Et c'est...
Je crois que vous en avez parlé beaucoup, mais c'était vraiment important à ce moment-là.
C'était tellement important qu'il y avait une pénurie de cadavres. C'est que les gens ne léguaient pas un membre de la famille à une faculté de médecine facilement, aisément.
Il y avait des vols de cadavres.
Pour s'approvisionner, les jeunes étudiants, puisqu'ils avaient des examens à passer, ils allaient, par exemple, un exemple entre autres, c'est au cimetière Côte-des-Neiges, ils déterraient un cadavre et ils l'apportaient à la faculté de médecine. Et oui, il y a eu des vols de cadavres, certains se sont fait prendre, et ils ont même compris un subterfuge assez amusant, puisqu'ils avaient des collègues qui étudiaient en droit, eh bien, ils ont compris que s'ils déshabillaient le cadavre, ils ne pouvaient pas être condamnés pour vol. De fait, il y a un cas assez connu à McGill où le juge est contraint d'innocenter les voleurs de cadavres parce qu'ils n'ont dérobé aucun bien et qu'un cadavre n'est pas un bien en soi.
Ah bon?
Et donc, voilà, il y a diverses anecdotes.
C'est lié à la révolution qu'on parlait tout à l'heure entre les humeurs pour la révolution clinique. Hein. Quand on a la révolution clinique, l'œil doit pénétrer le corps parce que, comme on dit, c'est basé sur l'observation puis la connaissance des organes. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, la dissection devient une pratique incontournable dans la formation médicale. Je parlais d'Osler tout à l'heure. Osler va avoir fait un nombre incalculable de dissections devant les étudiants. Il était reconnu pour ça. Il y a tout le côté aussi de l'Église, hein, par rapport au fait de se servir des cadavres, va être réticente pendant longtemps. Bien sûr, elle va accepter sous certaines conditions. Oui. Puis avoir un cadavre, ça veut dire avoir quelqu'un souvent qui, un être qui est mort sans famille, etc. Donc, c'est une matière assez rare et donc assez chère. Est nécessaire hein, dans une formation, ce qui va entraîner justement cette rareté, cette difficulté à obtenir des cadavres, je dirais ce marché des cadavres qui va entraîner, par exemple, des infractions telles que le vol. Puis c'est pas quelque chose qui est spécifique au Québec. On donne des exemples où, dans des États américains où on va avoir des moyens assez drastiques pour enrayer ce commerce et ce vol des cadavres.
Oui, en effet. Mais il y a une chose importante à souligner, c'est que l'enjeu de ces étudiants en médecine, lorsqu'ils vont déterrer un cadavre, ils l'apportent à la faculté de médecine, ce qu'ils essaient d'observer, c'est de quoi est-il mort. C'est comme un jeu, dans le fond. Et par la dissection anatomique, certains vont se rendre compte que c'est probablement une cirrhose du foie. Pourquoi? Ben, parce que le foie est gonflé, il y a une couleur rousse, d'où le nom cirrhose, parce que ça vient de kyros, qui veut dire, en grec, qui veut dire roux. Donc, en observant le foie, c'est-à-dire, c'est lui, il est mort d'une cirrhose. Un autre, il est mort d'une pneumonie. Par exemple, on observe les poumons, la tuberculose, etc. C'est un peu l'enjeu. C'est un peu un, je ne dirais pas que c'est un jeu en soi, mais c'est l'idée de reconnaître les signes intérieurs de la maladie dans leur formation.
Parmi les grandes spécificités de l'histoire de la médecine au Québec, vous soulignez le clivage entre anglophones et francophones, les deux réseaux d'institutions. Mm-hmm. Et évidemment, du côté francophone, l'Église va jouer, les communautés religieuses vont jouer un rôle important. Comment expliquez-vous le développement inégal? Est-ce que parce qu'il y avait plus de philanthropie, plus de riches qui ont pu financer ces grandes institutions-là beaucoup plus tôt? Avez-vous une explication autre ou,
non,
c'est,
ben,
ou c'est juste l'histoire de la bourgeoisie canadienne qui...
Non, mais dans n'importe... On voit que dans bien des domaines, il y a une inégalité entre les protestants et les catholiques parce que c'est pas tellement anglophone que francophone qu'entre catholiques et protestants. C'est pour ça que l'institutionnalisation dont je parlais au tout début est vraiment très importante parce que quand on parle d'institutionnalisation, on parle de structure et en raison du fait que la structure scolaire au Québec va être divisée entre protestants et catholiques. Donc, il va y avoir des écoles catholiques, des écoles protestantes, des universités, des collèges catholiques, des grammar schools protestants. Il va y avoir aussi, effectivement, des universités catholiques et des universités francophones. On voit pas juste en médecine cette inégalité-là. Quand on pense, par exemple, au développement de l'université moderne, c'est-à-dire où la recherche prend une part importante, devient une mission de l'université, ben c'est McGill et Toronto qui vont être les pionniers là-dessus. Et donc, ce développement de la science à travers le développement de la recherche dans les universités montre une inégalité dans le temps, en tout cas, entre le développement de l'université moderne au Canada français et au Canada anglais. Et ça se répercute, bien sûr, dans le développement de la médecine et donc de la recherche, par exemple, médicale en milieu universitaire, bien, protestant ou catholique.
Oui, Denis.
Mais McGill est largement favorisé. Pour plusieurs raisons, mais il y a une raison qu'on oublie trop souvent, c'est que, en fait, la communauté anglophone est relativement prospère, particulièrement à Montréal. Or, il n'y a qu'une institution à financer. Alors que du côté francophone, même si on a des hommes d'affaires qui prospèrent, il y a plusieurs. Est-ce qu'on donne à l'Hôtel Dieu de Montréal? Est-ce qu'on donne à l'Hôtel Dieu de Québec? Est-ce qu'on fait un don à l'Hôpital Notre-Dame, etc., etc.? Alors que McGill et son hôpital, l'Hôpital Général de Montréal, est quasiment seul à recevoir ces grands legs. Et la faculté de médecine, notamment, en profite. Autre élément, c'est l'attrait que Montréal va exercer chez les anglo-britanniques. Donc, il y a plusieurs médecins spécialistes, les premiers spécialistes, des médecins très bien formés qui quittent l'Angleterre ou la Grande-Bretagne pour venir enseigner à McGill, ce qui se fait peu dans les facultés francophones. Pourquoi? Parce qu'elles manquent de moyens, parce qu'il y a une rupture avec la France, il y a une francophilie qui va réapparaître, mais il y a quand même une cassure au 19e siècle avec la France. Les Français sont peu intéressés à venir pratiquer au Canada français, ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne. Donc, il y a des éléments qui ont permis à McGill, qui ont favorisé, qui fait que McGill était largement...
Subventionné par la grande bourgeoisie canadienne. On oublie, par exemple, que le magnat du tabac, McDonald's, va donner à l'Université McGill 11 millions de dollars, ce qui est 300 ou 400 millions de dollars d'aujourd'hui, là, entre 1890 et 1911, l'année de sa mort. Donc, on oublie aussi le marché de McGill. C'est pas un marché montréalais, c'est pas un marché québécois, c'est un marché...
Nord-américain.
Et comme Denis dit, britannique. Quand on regarde les étudiants qui vont à McGill, il y a juste 33-35% qui viennent du Québec et il y en a quand même près de 60% qui viennent de l'extérieur parce que c'est une université qui...
Prestigieuse.
Oui. Ouverte, par exemple, aux Juifs jusque dans les années 29 et 30. On voit que ailleurs il y a des quotas, donc...
Et en plus, elle reçoit des subventions de grands organismes américains. Lorsque Rockefeller entreprend ses grandes campagnes philanthropiques, eh bien, il dote McGill, alors que la petite faculté de médecine, l'école de médecine et de chirurgie, reçoit rien. L'Hôpital général de Montréal reçoit des montants, par exemple, des bourses de la Fondation Rockefeller, alors que l'Hôpital Notre-Dame peine à obtenir de telles bourses. Donc, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre et qui fait en sorte que c'est pas par désintérêt pour la science que les médecins francophones vont moins s'orienter vers la recherche. que McGill, c'est par manque de moyens et par manque d'intérêt aussi, hein, de la part des religieuses.
Oui. Si on prend maintenant le dernier tiers du 19e siècle, qui est une période de grande transformation en médecine, vous dites, vous avez écrit qu'il y avait davantage de transformations capitales dans les 30 dernières années au 19e siècle que les 70 précédentes. Alors, oui. si vous aviez à présenter rapidement, comment vous présenteriez ces grands changements-là? C'est la science, mais plus précisément.
Bon, premièrement, c'est domination de la médecine clinique, donc une approche beaucoup plus objective, une approche basée sur l'observation, développement des moyens d'investigation clinique, le thermomètre, le stéthoscope, les laryngoscopes qui vont peu à peu apparaître. Deuxième aspect, médicalisation des hôpitaux, on l'a souligné, développement des facultés de médecine, ce qui permet d'augmenter, si on veut, les cadres d'étudiants et donc les effectifs médicaux.
Les conditions d'enseignement qui s'améliorent.
Les conditions d'enseignement qui s'améliorent, bien sûr. Aussi, développement peu à peu de la bactériologie.
C'est l'élément.
C'est ça, parce que je voulais vous faire dire, c'est la bactériologie.
En fait, il y a deux grandes révolutions. Hein. Il y a la révolution clinique, c'est-à-dire le passage des humeurs aux organes. Puis la deuxième grande révolution, c'est des miasmogermes, c'est des miasmogermes.
Donc, c'était pas le titre de votre thèse, ça?
Oui,
exactement. Exactement.
Exactement. Mais quand on parle de bactériologie, ici, on s'adresse davantage à la bactériologie médicale qui va avoir un impact considérable. Pourquoi? Parce que les principales causes de mortalité, il faut le rappeler, à ce moment-là, ce sont les maladies infectieuses. Autant chez les adultes que chez les enfants. On meurt de tuberculose, on meurt de diverses maladies infectieuses, de diphtérie, etc. Puis, on pourrait peut-être dire de façon un peu plus sévère qu'on meurt de misère, en gros. C'est-à-dire, l'insalubrité chez les
classes pauvres, les conditions de vie sont importantes, comme pour la tuberculose, c'est beaucoup les conditions de vie.
Juste par rapport à la chirurgie, il y a deux grandes techniques qui vont faire en sorte un grand bond dans la réussite des chirurgies. Avec la bactériologie, c'est l'asepsie. Les gens mouraient parce qu'on ouvrait un corps, puis on les contaminait. Et l'autre, c'est l'anesthésie, qui va se développer au milieu du 19e siècle, mais qui va se répandre très rapidement avec plusieurs autres techniques. En premier, c'est l'éther, mais rapidement, on va améliorer cette technique-là. Et donc, on a deux techniques qui vont complètement donner un boom extraordinaire du succès de la chirurgie. La chirurgie a toujours existé, mais là, on va avoir des taux de succès qui seront sans commune mesure avec ce qui existait.
Et non seulement des taux de succès, c'est que, en fait, on va développer de nouveaux types d'interventions. C'était impensable d'opérer sur la tâche thoracique ou de faire des interventions intra-abdominales. L'infection du patient était quasi assurée avec l'asepsie. Et d'ailleurs, les Canadiens français ont été parmi les premiers au monde à introduire l'asepsie. Il faut souligner Oscar Mercier à Notre-Dame, Amédée Marien à l'Hôtel-Dieu de Montréal. Pourquoi ils sont les premiers? C'est qu'ils vont à l'Institut Pasteur suivre des cours de microbie technique, c'est le terme qu'on emploie à l'époque, où déjà les procédés d'asepsie sont très, très modernes, sont très développés.
Donc, dès 1900, on s'inspire
1892, c'est très, très tôt. Les Américains vont adopter des méthodes aseptiques un peu plus tard. Mais c'est vrai que c'est l'émergence de la grande chirurgie. C'est les premières, par exemple, les appendicectomies, etc., qui va émerger. Donc, c'est un moment... C'est vrai qu'il y a une effervescence. Il y a une évolution du savoir médical aussi.
Et les institutions françaises sont importantes. L'Institut Pasteur,
C'est le caractère francophone. Hein? Oui. On est des Canadiens français.
Ça, c'est donc, vers la fin du 19e.
Oui, on renoue avec la France à la fin.
Il y a trois grandes filières, là, je dirais, de transmission des connaissances et des modèles qui se développent là, en Europe ou aux États-Unis. Il y a donc, je dirais, la filière américaine qui va être plus développée au 19e siècle. La filière britannique, parce qu'effectivement, on est une colonie britannique pendant une bonne partie du 19e siècle. Et bien sûr, la filière française, parce qu'il y a des Canadiens français qui, naturellement, se tournent vers Paris, hein, parce que la France, on parle de la France, c'est Paris, et que Pasteur est un grand catholique. Pasteur, c'est quelqu'un qui va être contre, par exemple, la théorie de l'émergence de la vie spontanée et qui, donc, est vu de façon très améliorative par toute la hiérarchie catholique. Et donc, c'est bon de se retrouver dans un laboratoire de Pasteur.
Puis, il faut rappeler aussi que à cette époque-là, la France et avec les pays germaniques, notamment l'Allemagne, c'est les deux grands centres internationaux de la médecine. C'est pas les États-Unis, c'est plus tard que les États-Unis vont progresser au niveau de la science médicale. Mais il se fait des choses formidables en France à la fin du 19e siècle.
Et déjà, les médecins du Québec voyagent, vont faire des séjours d'études?
Oui, bien sûr.
Ça ne commence pas uniquement dans les années 20.
Ça va s'accélérer dans les années 20, mais déjà, il y a des transferts de savoir. Oui, il y a des voyages, il y a des séjours d'études, absolument.
Écoutez, on va être obligé de mettre un terme à cette premier aperçu de votre livre, parce que votre livre couvre deux siècles et on a à peine terminé le 19e. Donc, On va reprendre tout ça dans une autre rencontre. Je vous remercie beaucoup, Denis Goulet et Robert Gagnon. À une prochaine.
Un plaisir. Merci.
Vous venez d'entendre la première partie de l'entrevue qu'accordait à notre collègue Robert Comeau, les auteurs du livre « Histoire de la médecine au Québec », Robert Gagnon et Denis Goulet. Nous vous présentons la suite de cet entretien la semaine prochaine. Écoutez Nouveau regard sur notre histoire, sur les ondes de Radio-VM. Au microphone, Éric Lebel. La deuxième partie de l'émission est une invitation au voyage puisque nous nous rendons avec vous en France, plus précisément à Brouage, ville natale de Samuel de Champlain. Il s'agit d'une entrevue, toujours d'actualité, réalisée dans les années 70 et tirée des archives de la Société historique de Montréal. À cette occasion, le père Julien Désiel, franciscain, qui fut longtemps président de la Société généalogique canadienne-française, de passage à Brouage, s'était entretenu avec Maxime Legrel, jésuite français et grand admirateur de Champlain.
Père de Grêle, qu'est-ce qui vous a amené à porter tant d'intérêt à notre histoire canadienne autour de la personnalité de Samuel de Champlain?
Cher Père Désiel, ce n'est pas la personne de Champlain qui m'a frappé en premier lieu, mais quand j'avais 22 ans, et ce temps-là est loin, figurez-vous, j'ai commencé par lire un roman que vous rejetez un petit peu maintenant, mais que j'ai trouvé passionnant, qui m'a révélé le Canada, c'est Maria Chapdelaine. À la suite de cela, j'ai correspondu avec des Québécois. Ils m'ont envoyé, ils étaient enthousiastes, ils m'ont envoyé beaucoup de livres, et entre autres des livres d'histoire, des livres sur les saints martyrs, aussi l'histoire de Champlain, des livres de Lionel Groulx. J'avais 22 ans, j'avais fait des études, je travaillais en banque, ça m'a passionné. Et voici que cette passion m'a poursuivi durant toute ma vie. Je suis allé plusieurs fois au Canada, j'ai dit, tiens, mais je resterai bien ici, vous êtes, ce peuple est tellement sympathique, je me trouve tellement bien ici, permettez-moi donc de rester. Il y a un père d'une communauté qui m'a répondu à Montréal, « Nous avons déjà un Français ici dans notre communauté, ça suffit. » Et puis après cela, j'ai fait d'autres démarches en plus haut lieu. J'avais l'accord des provinciaux de France, et ils avaient constaté ma vocation un peu particulière, dit « Suivez votre vocation ». Je me suis adressé au révérend père de Montréal. Ils m'ont dit, si vos pères de France vous laissent partir si facilement, c'est sans doute que vous ne valez pas grand-chose. Alors, restez où vous êtes. Ça ne m'a pas découragé. J'ai continué ma propagande. J'ai fait de la propagande sur les origines de la Nouvelle-France. D'ailleurs, je dois vous dire aussi, quand je suis arrivé à Montréal et que j'ai parlé de l'épopée, les pères de l'époque m'ont dit, oh, ne parlez donc pas d'épopée, c'était vers les années 62 ou 60 ou 62. Vous n'aurez aucun succès auprès des jeunes. On n'en veut plus, on la rejette, l'épopée. Oh, je dis, mais c'est pourtant si beau. Bon, alors je suis revenu en France, j'ai continué à propagande en France, ne pouvant pas aller au Canada. Et finalement, je ne dis pas échoué, mais je me suis dit, pour bien exploiter ma documentation, après l'avoir promenée de ville en ville depuis Troyes jusqu'à Bordeaux et d'Amiens, Rouen jusqu'à Dijon et quantité d'autres villes, j'ai demandé mon admission à Brouage, qui est le berceau du Québec et du Canada, et je suis très heureux maintenant de m'y trouver. et d'y accueillir du mieux que je peux, avec le maire, avec M. Delouvet, avec les autorités de la région. Je suis très heureux de vous accueillir ici et de continuer ma propagande ici, dans l'église où il y a une exposition permanente.
Maintenant, nous serions intéressés de connaître votre point de vue particulier sur la personnalité de ce qu'a été Champlain et les circonstances qui l'ont amené à demander la collaboration des pères récollets. Eh bien, comment se fait-il que Champlain a connu les récollets et qu'il les a demandés pour l'accompagner en 1615?
Père Désiel, ici Champlain, est vraiment un très grand homme. Depuis le mois d'octobre, je suis plongé, après avoir écrit dans le petit journal Le littoral qui paraît à Marraine, j'ai écrit toute l'histoire de Brouage, celle de Jacques Cartier, celle des premiers essais de colonisation en Floride, au Brésil. Maintenant, j'en suis arrivé à Champlain. Depuis le mois d'octobre, je me suis plongé dans la lecture de ses écrits. C'est un homme admirable et passionnant. Il était d'abord payé par les marchands pour aller à la recherche des meilleurs points de vente et d'échange de troc au Canada, au service des marchands. Dès qu'il a vu le Canada, il s'est passionné pour le Canada et il s'est passionné pour cet idéal qui ne l'a jamais quitté, fonder une nouvelle France là-bas, une colonie de laboureurs. Les marchands n'ont rien voulu savoir et Champlain, comme vous devez le savoir, a lutté d'une manière épique pendant 30 ans, contre les marchands, contre la coalition des intérêts égoïstes, et finalement, il a eu gain de cause. Non seulement c'était un homme d'idéal, mais c'était aussi un très grand chrétien et un catholique fervent, quoi qu'on dise, quant à son nom de Samuel et ses origines soi-disant protestantes, et c'était un grand catholique. Et quand, ayant séjourné constamment parmi les Indiens, qu'il a toujours respecté, il a toujours vu des frères. Il a vu que ces hommes-là vivaient sans aucune connaissance de religion. Et il s'est senti responsable de leur salut et lui-même a dit « Je sens un apôtre naître en moi ». Après ses premiers voyages, il dit « Il faut absolument que j'y envoie des missionnaires ». Et il s'est abouché avec un monsieur, Houël, qui était ici gouverneur des Salines à Brouage, qui était un homme de grande piété, qui dit « Moi, j'ai votre affaire. Je connais ici des récollets, à Brouage même, je vais leur en parler, il leur en a parlé, et ses pères, comme il est dit dans les écrits de Champlain même, brûlaient du désir d'aller planter l'étendard de Jésus-Christ dans ces terres. » Et c'est ainsi qu'en 1615, Champlain de Honfleur est parti avec le père, le fameux Joseph Le Caron, de Nijamais et Duplessis, Pacifique Duplessis, ils étaient trois, Jean Dolbeau. Alors ils sont partis pour l'Amérique en 1615. Le père Jean Le Caron, ardent plus que les autres, homme très érudit, de surcroît, parce qu'il avait été le précepteur à la cour du dauphin. Il est parti d'emblée, on lui avait conseillé de rester sur place, n'est-ce pas, d'abord à Québec pour s'acclimater. Il est parti immédiatement à 2000 kilomètres, n'est-ce pas, de là, l'année même de son arrivée, pour aller parmi les Hurons et connaître leur langage et leur naturel, comme il le dit lui-même. Et Champlain l'a suivi dans cette même région, en Huronie, et ensemble, ils ont voyagé parmi les différentes nations qui se trouvait à cette époque autour du lac Huron, donc dans la région des Grands Lacs. Comme vous dites, Père Désiel, vos pères récollets, c'est-à-dire les franciscains d'alors, ou les franciscains de la stricte observance, ont été aussi dans cette équipe les premiers instituteurs de l'Amérique du Nord, parce que le frère Pacifique Duplessis est devenu instituteur, et je ne sais pas si c'est jamais au Dolbeau, son compagnon est devenu instituteur à Trois-Rivières. Il a été pendant quelque temps.
Père, vous pourriez certainement nous donner des précisions sur le fait que votre région ici, que ce soit Brouage, Rochefort, La Rochelle, ait été un centre particulièrement donné au développement de la Nouvelle-France. Naturellement, je pense bien que le port principal du départ des quantités de colons vers la Nouvelle-France était La Rochelle, mais il n'était pas le seul. Il y a des gens qui, comme le moine de Sérigny, après des carrières militaires très connues chez nous en Canada et même jusqu'en Louisiane, eh bien, le moine de Sérigny est revenu mourir à Rochefort. Eh bien, quel était l'attrait particulier, pensez-vous, qui a pu éveiller l'attention des gens de votre région? C'était des marais peut-être pas encore desséchés comme on les voit aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être l'attrait de terres nouvelles qu'ils recevaient de la part du gouvernement français à l'époque en Nouvelle-France?
Père Désir, je vois beaucoup de choses à dire. Ayant parlé des pères franciscains, je veux dire aussi, en passant, un petit mot des pères jésuites, parce que je suis jésuite, et je vous dirais que vous avez parlé d'Henri IV, vous n'êtes pas sans savoir qu'Henri IV a justement favorisé la fondation à la Flèche d'un très grand collège des pères jésuites, et c'est là que les jésuites, les premiers jésuites qui sont allés en Acadie, ont été chassés par les Anglais, après les invasions d'Argal, d'un certain Anglais Argal, ils sont revenus à la Flèche, et ils ont fait une propagande considérable en faveur du Canada, en faveur de la Nouvelle-France, auprès des jeunes qu'ils avaient là, parmi lesquels il y avait Jean de Beboeuf, il y avait Jérôme Lallemand, il y avait Edmond Massé. C'est ainsi que les jésuites sont venus à la suite de vos pères franciscains. Ils sont allés très loin, ils sont allés dans cette fameuse résidence de Midland, qui est à 2000 km de Québec. C'est là encore une autre épopée magnifique, n'est-ce pas, les Saints-Martyrs, vous, c'est très connu. Surtout, ne les reniez pas. Dernièrement, je dis ceci en passant, j'ai entendu dire à la radio, non pas à propos du Canada, mais ceci en général, parce que le phénomène existe partout, un peuple qui rejette son histoire s'en va au néant. Maintenant, pour répondre exactement à votre question, ce que je vous dis là tout à l'heure, il est parti beaucoup de monde ici de Poitou-Charentes. Il y a les Nadeau, il y a bien des noms, je ne les ai pas tous à la mémoire, mais ce que je peux vous dire, Père Désiel, c'est que une de mes dernières visites dans l'île d'Oléron, qui est ici à 15 kilomètres, j'ai vu, après avoir bien connu, après avoir séjourné la rue Papineau à Montréal, la rue Papineau, n'est-ce pas, l'Immaculée Conception, j'ai été tout étonné de découvrir une rue Papineau dans l'île d'Oléron.
C'est de l'île de Ré qu'est parti l'ancêtre des familles Villeneuve, parmi lesquelles un personnage était en vedette, le cardinal Villeneuve de l'île d'Oléron. Maintenant, pour finir, si vous me permettez, une petite question encore. Puisque les martyrs jésuites dont vous avez souligné les noms, qui ont été professeurs, le père allemand, directeur même du collège Henri IV à La Flèche, et qui est devenu maintenant le prytané militaire, eh bien, ils sont allés en Ontario chez les Hurons, et c'est là qu'ils ont recueilli le martyr dont ils n'avaient pas peur, hein? Eh bien, puisque Midland, Sainte-Marie-des-Hurons, eh bien, c'est en Ontario. Ça en est non seulement un lieu de pèlerinage, mais c'est un lieu, je dirais, de souvenir de vie française, la première implantation française en Ontario. Je crois que certains événements doivent se passer ici relativement à un rôle que l'Ontario voudrait jouer dans la ville natale de Samuel de Champlain. Voulez-vous nous dire quelques mots sur ce sujet?
Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1970, il y a eu de grandes fêtes ici à l'occasion du 4e centenaire de la naissance de Champlain. Et à cette occasion, le gouvernement du Québec, très généreux, a doté l'ancienne ville de Champlain, de Brouage, d'un magnifique mémorial. Champlain étant allé aussi en Huronie, c'est-à-dire dans l'actuel Ontario, et étant le premier Européen à être pénétré dans ces territoires, aujourd'hui, le gouvernement de l'Ontario désire aussi élever au moins une plaque de bronze en l'honneur de Champlain. Maintenant, il y a un autre pays qui m'est très sympathique et dont je voudrais dire aussi un mot. Vous avez dit là, pourquoi, n'est-ce pas, les gens sont partis de ces régions. Richelieu y est certainement pour quelque chose. Parce qu'après Champlain, Richelieu, n'est-ce pas, il n'y aurait pas eu Richelieu, ce n'est pas ce qui serait advenu. Richelieu a été évêque ici en Vendée, à Luçon, Et beaucoup de gens sont partis d'ici et qui sont aussi partis en Acadie. Ici, les pays, comme vous l'avez constaté, ont été conquis sur la mer. C'est des marais conquis sur la mer. C'est des sortes de polders. Beaucoup de gens sont partis d'ici en Acadie aussi, où ils ont trouvé une situation analogue le long de la mer. Et ils ont introduit là-bas les mêmes procédés d'assèchement de la mer qu'ils exerçaient ici dans le marais Poitevin et dans le marais Vendéen, ici partout dans la région. Et il y a des ressemblances frappantes, n'est-ce pas, même dans le parler, même dans certains mots, entre les Acadiens et la population d'ici. Je crois que s'il faut faire honneur au Québec, la nation française née le long du Saint-Laurent, grâce à Champlain, il n'y aurait pas eu Champlain, il n'y aurait rien eu du tout. Il ne faut pas oublier nos chers amis acadiens qui luttent désespérément, et dont l'histoire est tragique. Dernièrement, nous avons reçu ici des Acadiens, nous avons reçu un groupe d'Acadiens ici, il y a 2 ans. On leur a fait fête un petit peu à Marennes. Il y a eu un défilé en ville, précédé de la musique. Ces Acadiens ont été heureux un bonheur sans égal. Pour une fois, ils étaient à l'honneur, en public.
Vous venez d'entendre, grâce à une archive sonore de la Société historique de Montréal, une entrevue réalisée par le père Julien Désiel, franciscain qui fut longtemps président de la Société généalogique canadienne-française. De passage à Brouage, il s'était entretenu avec Maxime Legrel, jésuite français et grand admirateur de Samuel de Champlain. Ainsi s'achève cette émission et nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite sans faute, samedi prochain, 18h, sur les ondes de Radio-VM, à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.